Si Dieu est si terriblement opposé à la chair, c'est parce qu'il connaît à fond son état. Et Dieu tient à ce que ses enfants soient complètement affranchis, c'est-à-dire libérés de l'ancienne création et entrent dans la nouvelle création, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, dans en haut, par une expérience décisive. En fait, l'erreur que nous commettons tous, en tant que croyants, nous avons tous commis plus ou moins, c'est la suivante, c'est que nous ne connaissons de la chair que le mal qui doit être détruit sans réaliser que le bien de la chair doit l'être également. Nous ne nous rendons pas compte que la justice de la chair appartient autant à la chair que son iniquité. Et la chair reste la chair, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et le danger, en fait, réside pour un grand nombre de chrétiens. Le danger réside dans son ignorance de cette nécessité qu'il doit se détourner de tout ce qui est de la chair. Que ce soit bon, ça, il le comprend, il le fait, mais que ce soit mauvais, pardon, c'est un vrai lapsus, là. La chair reste la chair, et donc, nous, en tant que croyants, nous devons nous débarrasser autant de ce qui est mauvais, qui est facile à repérer, que de ce qui nous paraît bon, qui est beaucoup plus difficile à repérer comme venant de notre chair. Tout ce qu'il y a de bon dans la chair n'est pas du tout acceptable par Dieu, par deux, par Dieu. Oh là là. Pardon. Il y a beaucoup d'opposition à ces notions. Donc, je dois reconnaître sans ombrage que ce qu'il y a de bon dans ma chair n'est pas du tout acceptable et n'est pas plus acceptable que ce qu'il y a de mauvais. Pourquoi ? Parce que tous les deux sont de la chair. Parce que si moi je laisse ma chair faire ce qui est bien, dans sa propre énergie, je vais aussi vite la trouver faisant ce qui est mal, alors que je ne l'ai pas désiré. Si ma justice propre n'est pas détruite, l'iniquité ne manquera pas de se manifester dans ma vie. Donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la chair reste toujours la chair, ça nous cesserons de le répéter, et il faut que nous l'intégrions tout un chacun. La différence entre le bien qui procède de la chair et le bien qui découle de la vie nouvelle, c'est que simplement la chair a toujours le moi pour centre. Si je peux faire le bien sans avoir besoin de recourir au Saint-Esprit, sans la nécessité de courber ma vie, de plier ma volonté, sans me tenir devant Dieu et de prier, alors je sais une chose, que c'est ma vie propre qui est la source. Si je ne vais pas chercher une source qui est extérieure à moi, c'est-à-dire Dieu, et donc si je ne vais pas chercher la face de Dieu, si je ne vais pas chercher à prier, à connaître sa pensée, à lire les Écritures pour connaître sa pensée, à prier pour avoir la révélation de sa pensée sur quelque chose, eh bien, je peux dire une chose, si je n'ai pas besoin de tout ça, c'est qu'en fait, ma vie propre est bien ma source de fonctionnement, et donc je vais vers la mort. Car la chair mène à la mort. Puisque c'est moi qui veux, qui pense, qui agit, sans avoir besoin de Dieu, et que je me regarde comme un être tellement bien, amélioré, devenu quelqu'un par mes propres efforts, en quelque sorte, je m'en attribue la gloire à moi-même. Je dépends que de moi-même. Et donc, tout ce que je vais partager ne va pas attirer les hommes à Dieu. cela va attirer les hommes à moi. Moi. Le moi est exalté lorsque c'est la chair qui est la source de la vie, même des bonnes choses. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que chacun vienne à lui dans un sentiment d'absolue indépendance. Vous savez, souvent dans le ministère, je rencontre des gens qui disent « Mais moi, j'ai la foi, mais je crois en Dieu, j'ai tout remis à Dieu. » Et puis, ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils n'ont rien remis du tout à Dieu, mais qui dirigent leur vie, qui contrôlent leur vie, qui font le mieux qu'ils peuvent pour que leur vie aille le mieux possible. Et bien sûr, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tant que ces personnes-là n'ont pas compris la différence entre ce qu'est la vie propre, la vie de la chair, et ce qu'est la vie de Dieu qui leur est donnée par grâce, qui leur a été donnée par la foi, eh bien, on tourne en rond avec ces personnes-là, elles n'avancent pas, elles épuisent les ministères, il faut le dire, ce sont des mangeurs de ministères qui ont toujours besoin qu'on prie pour eux, toujours besoin qu'on les aide, mais qui ne sont pas capables de décider de faire cette différence entre la vie qui vient de Dieu et la vie qui vient d'eux-mêmes. Donc, la chair combat contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Donc, ces personnes-là, on ne peut pas significativement les aider. Il est dit de supporter les faibles et nous sommes toujours prêts à supporter les faibles. Ceux qui avancent, qui trébuchent, qui avancent, qui tombent, qui se relèvent, qui avancent, mais qui avancent avec la vie nouvelle que le Seigneur leur a donnée. Ils ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Nous avons besoin les uns des autres pour nous aider à avancer. Par contre, les personnes qui sont centrées sur leur vie et qui ne veulent pas en démordre, c'est-à-dire qu'elles prennent tout ce qui est le potentiel de Dieu comme étant réel dans leur vie, ce qui n'est pas vrai. Tout le potentiel de Dieu est à disposition pour chacun. Mais si nous ne l'actualisons pas dans notre vie par la foi, en Jésus-Christ, c'est-à-dire en mourant sur la croix avec lui et en faisant mourir chaque jour les œuvres de la chair dans nos vies, eh bien, nous ne verrons rien s'accomplir. Ces gens seront toujours dans une illusion, seront toujours déçus, parce qu'en fait, ils cherchent à apprendre tout le temps, mais ils n'arrivent jamais à saisir ce qu'ils désirent saisir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas abdiqué dans leur vie propre, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qu'était la véritable vie. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul va protester en disant qu'il ne met pas sa confiance en la chair. Philippiens, chapitre 3, verset 3. Et la tendance de la chair, en fait, c'est de ne se fier qu'à elle-même. Alors en général, ces personnes dont j'ai parlé là précédemment, ont dit « moi je vais voir ça avec le Seigneur, mais je vais aller prier, je vais voir ça avec le Seigneur ». Et puis elles ne changent jamais. Parce que le fait de ne pas vouloir, au moment où on leur partage cette connaissance de Dieu, au moment où on leur partage ces richesses, si ce n'est pas ce moment-là qu'elles s'ouvrent à Dieu, ce n'est pas quand elles iront dans l'énergie de leur propre moi se placer devant Dieu qu'elles vont recevoir la révélation. Dieu est un Dieu de l'ici et du maintenant. Dieu est le Dieu de l'aujourd'hui. C'est ici et maintenant, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et vous êtes dans l'illusion si vous dites « mais je vais prier, je vais regarder, je vais faire, maintenant je vais me retirer devant le Seigneur, je me place devant le Seigneur ». Et puis ça n'aboutit à rien. Vous êtes après comme vous étiez avant. Pourquoi ? Parce que simplement, vous n'avez pas abdiqué au moment où le Saint-Esprit, par le biais de quiconque, peu importe, mais par le biais d'une personne, est en train de vous toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher quelque chose dans votre vie. Mais votre rébellion et votre orgueil ne veut pas abdiquer devant le Seigneur, pas devant les personnes, mais devant le Seigneur. C'est très important, parce que c'est quelque chose que nous rencontrons constamment dans le ministère. Et ces personnes-là ne peuvent pas être aidées. Alors en général, elles se retournent et elles vous diffament. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Il n'y a rien d'anormal, c'est l'œuvre des ténèbres. Les disciples doivent être comme le maître, donc ils doivent être, le maître a été trahi, diffamé, calomnié, les disciples doivent l'être. Si nous ne le sommes pas, nous devons nous poser une question. Est-ce que nous sommes réellement des disciples? Les chrétiens charnels se regardent comme capables. Ils n'éprouvent pas le besoin de se confier dans le Saint-Esprit. Or, Christ crucifié est la sagesse de Dieu. Mais quelle confiance, ce croyant-là, va pouvoir mettre dans ce Christ crucifié, puisqu'il se confie en lui ce qu'il pense, lui ce qu'il croit, lui ce qu'il comprend. C'est-à-dire, c'est son intellect qui va, son intellect ou encore ses pensées, en général, c'est ces deux choses ensemble, son intellect ou ses émotions, je veux dire, qui vont être le moyen pour ces personnes-là de discernement. Or, l'âme ne peut pas discerner les choses de l'esprit. C'est l'esprit qui va discerner les choses de l'esprit et les comprendre et recevoir les choses du Saint-Esprit. La vie de l'âme ne peut pas entendre les choses de l'esprit. Elle ne peut pas les comprendre. Elle ne peut pas les comprendre. Elle ne peut pas les comprendre. C'est sûr qu'il faut écouter la parole de Dieu, il faut y croire, mais si toute cette activité s'exerce par la puissance de l'entendement, de l'intellect, eh bien le chrétien, là, le croyant, n'enregistre dans les profondeurs de son esprit aucun des appels de Dieu à dépendre exclusivement du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y en a tant qui croient posséder la vérité, mais il ne possède rien du tout, parce que la vérité c'est une personne, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne se laisse jamais saisir par notre âme, jamais. Ces chrétiens-là ne sont pas préoccupés à se laisser instruire par le Seigneur. Ils n'ont pas préoccupé à s'attacher au Seigneur pour qu'il leur révèle la vérité. Christ crucifié, c'est également la puissance de Dieu. Mais reconnaissons-le, dans le service chrétien, quelle place est donnée à la confiance en soi-même? On déploie plus d'efforts pour dresser des plans, prévoir des arrangements qu'on en déploie pour se tenir tranquillement devant Dieu. C'est ça, chercher sa face, c'est se tenir devant Dieu et l'écouter. C'est se tenir devant Dieu et l'entendre nous parler. C'est se tenir devant Dieu et faire taire son âme. C'est David qui disait « Je fais taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère ». Vous avez déjà vu des enfants sevrés, là, qu'on vient juste de sevrer, que la mère prend dans les bras, ils se tournent tout, ils cherchent le sein, ils veulent téter. Ils sont malheureux, ils se mettent à pleurer parce qu'ils n'ont rien. Ben, les chrétiens, c'est pareil. Ils doivent faire taire leur âme. L'âme, elle va gémir, elle va pleurer, parce qu'elle a eu l'habitude, elle, d'avoir ce qui lui plaisait. L'âme doit se taire pour que l'esprit puisse entendre ce que le Saint-Esprit dit au cœur de l'homme. Vous savez que on passe souvent deux fois plus de temps à préparer les différentes parties d'un message et sa conclusion qu'à recevoir la puissance d'en haut. Comme nous encensons la sagesse humaine, comme nous nous donnons du mal dans nos messages pour apporter des arguments convaincants, comme nous savons employer des images appropriées puis toutes autres sortes de moyens artificiels pour stimuler l'émotion de notre auditoire. Que de sages exhortations nous accumulons. Oui. Quels sont les résultats pratiques de tout cela? La chair ne peut jamais communiquer la vie aux autres. Jamais. Jamais. Donc la confiance en soi, la sûreté dans l'action. La confiance en soi, la sûreté dans l'action sont les traits qui distinguent les bonnes œuvres de la chair. Il est impossible à la chair de s'appuyer sur Dieu. Elle est trop impatiente. Or, tout ce qui n'est pas le fruit d'une attitude d'attente devant Dieu et de dépendance du Saint-Esprit est indubitablement de la chair. Tout ce qu'un croyant décide selon son bon plaisir, au lieu de chercher quelle est la volonté de Dieu, émane de la chair. Chaque fois qu'un cœur refuse à Dieu la confiance, chaque fois qu'un cœur se refuse à mettre en Dieu toute sa confiance, la chair a libre voie pour déployer son activité. Alors les choses accomplies ne sont pas forcément nécessaires, ne sont pas nécessairement mauvaises ou inopportunes, mais elles peuvent être en fait bonnes, hein. On a vu que la chair peut produire des bonnes choses. Elle peut être empreinte de piété, par exemple la lecture de la Bible, la prière, le culte, bref, les bonnes choses ecclésiales. Mais si elles ne sont pas, toutes ces choses, si elles ne sont pas entreprises dans un esprit de complète dépendance du Saint-Esprit, alors c'est partout la chair qui est la source. Et vous savez, l'ancienne création est prête à n'importe quoi, même à se soumettre à Dieu. Les gens nous le disent. Ils sont prêts à s'humilier, à demander pardon, mais ils continuent à vivre par la chair. La chair ne reconnaît jamais sa faiblesse et n'admet jamais son inutilité. Mais si elle devient un objet de risée, elle demeure inébranlable dans la foi en ses capacités. Alors on peut se poser la question, mais comment cela se fait-il que tant d'enfants de Dieu recherchent avidement une marche pleinement consacrée, désirent de tout leur cœur une vie plus abondante, mais n'y parviennent pas? Alors, la réponse, elle est claire, elle est précise, elle est pour tous. Ils ont encore confiance en la chair et essayent de rendre parfait par la chair ce qui a commencé par l'esprit. Le moi tient à marcher la tête haute, en premier, tout en espérant que le Saint-Esprit prendra position à ses côtés pour lui venir en aide. Et c'est pour cela que nous prions tellement souvent. Cette prière où nous demandons à Dieu de nous aider à telle ou telle chose, de nous bénir pour telle ou telle chose, de faire ceci ou cela. On voit notre Seigneur, on voit l'Esprit de Dieu extérieur à nous, au lieu de comprendre qu'il vit en nous et qu'il veut œuvrer au travers de nous. C'est pas nous qui faisons avec l'aide de Dieu, c'est lui qui fait avec notre aide. Je répète, ce n'est pas nous qui faisons avec l'aide de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui fait au travers de nous avec notre aide. Et notre aide consiste dans le consentement que nous donnons au Seigneur qu'il nous utilise comme il veut, quand il veut, où il veut. Alors je dirais en conclusion que essayer de le suivre sans répudier le moi, sans divorcer de notre moi, de notre chair, eh bien voilà la racine de tous nos échecs. Donc si nous faisons un bilan de vie, que nous voyons que nous n'avons pas les bénédictions que nous sommes en droit d'attendre pour nous et nos familles, que nous n'avons pas non plus le fruit dans le cadre de notre ministère, eh bien, c'est simplement que nous avons essayé de le suivre, de faire ses œuvres sans répudier notre moi. Et c'est la racine de tous nos échecs.